Au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux en collaboration avec Studio 45. Et présentée par Benjamin Chausseron.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 5 de notre émission « Au doux plaisir de se retrouver ». Alors, être un musée municipal dans une commune de seulement 180 habitants, ce n'est pas forcément toujours évident. On se sent parfois un peu petit. Heureusement, nous avons la chance d'avoir des partenaires précieux, des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent souvent de réaliser de beaux projets collectifs. Parmi ces partenaires, nous pouvons citer, bien entendu, la communauté de communes Sauldre-et-Sologne, et plus particulièrement son réseau de bibliothèques, mais également son office de tourisme. Nous pouvons citer également la mission locale du pays Sancerre-Sologne. Nous les avions invités, rappelez-vous, lors de notre épisode numéro 2. Eh bien, aujourd'hui, nous avons souhaité mettre en lumière l'un de nos partenaires. Lequel, ou devrais-je dire lesquels ? Réponse dans quelques instants. Laissons encore un peu de suspense.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 5, les invités du jour.
Eh oui, notre pays, la France, et notre région, Centre-Val de Loire, possèdent un très très beau patrimoine. Alors quand on dit patrimoine, nous pouvons penser au patrimoine architectural. En effet, il est si riche en Centre-Val de Loire. Nous pouvons notamment citer nos châteaux, nos cathédrales, nos maisons à pans de bois, sans oublier nos maisons en briques de Sologne, mais également nos petites ruelles en pavé. Mais lors de cette émission, je vous parlerai d'un autre patrimoine, si riche en France et si riche en Centre-Val de Loire, le patrimoine littéraire. Tenez, prenons par exemple uniquement la communauté de communes Sauldre-et-Sologne. Eh bien, figurez-vous que Marguerite Audoux, Alain Fournier, Maurice Genevoix et Claude Seignolle ont vécu sur ce territoire. Et au-delà de ce périmètre intercommunal, d'autres écrivains et écrivaines se sont succédés dans notre région et dans notre pays. Alors, architecture et littérature seraient-ils cependant si éloignés l'un de l'autre ? Eh bien, non. Et oui, partout en France, des maisons natales, des lieux de vie, des bibliothèques et des musées mettent à l'honneur nos écrivains, leur vie, mais également leurs œuvres. Eh bien, figurez-vous qu'il existe une entité qui a pour mission de fédérer tout ce patrimoine culturel à l'échelle de notre pays. Il s'agit de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Et il existe également sa déclinaison locale qui a pour mission de fédérer ce patrimoine culturel à l'échelle régionale. Il s'agit d'écrivains au centre. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois invités qui représentent ces deux entités à la fois nationales et ou régionales. Je vous présente Sophie Vagneux-Wenhuys, qui est l'ex-déléguée générale, mais également vice-présidente de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Bonjour Sophie. Nous accueillons également Thomas Ducongé, qui est l'actuel assistant de direction de cette même Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Bonjour Thomas.
Bonjour Benjamin, merci de nous accueillir.
Et enfin, nous accueillons également Alain Lecomte, qui est le président de l'entité régionale du réseau, écrivain au centre, mais également le responsable du musée Rabelais. Bonjour Alain.
Benjamin, bonjour.
Alors, dans une première partie d'interview, nous allons parler de nous, c'est-à-dire du musée Marguerite Audoux et de la Fédération et d'Écriva au Centre, nos projets passés, nos projets qui ont marqué l'histoire du musée au cours de ces 10 dernières années.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 5, la première partie de l'interview.
Alors, première question. Eh bien, je crois me souvenir qu'en mai 2021, nous venions tout juste de sortir de l'époque Covid. Eh bien, nous avions accueilli une résidence littéraire d'un certain Thomas Giraud. Une résidence littéraire qui s'est notamment déroulée donc, à Sainte-Montaine grâce à vous, grâce à Écrivains au Centre. Alain, pouvez-vous nous rappeler en quoi consistait ce si beau projet ?
C'est un projet tout d'abord de résidence partagée, c'est-à-dire que le réseau régional Écrivains au Centre a pour mission de favoriser, j'allais dire, l'interpellation par des auteurs contemporains dans nos lieux patrimoniaux. C'est-à-dire que ces maisons d'écrivains, ces lieux de mémoire, ces lieux littéraires du passé doivent servir aujourd'hui comme principe d'action pour le présent et également pour l'avenir. Écrivains au Centre, comme tu le disais Benjamin, est une entité régionale donc, qui a vocation à réunir 35 adhérents, parmi lesquels il y a 18 maisons ou lieux littéraires, et puis des associations, également des fonds conservés dans des bibliothèques patrimoniales. Et la volonté donc, de ce partage, c'est bien sûr d'aller vers les maisons qui parfois sont un peu éloignées, que l'on qualifie de petites, même si je n'aime pas beaucoup le petit. Je vais parler plutôt de lieux qui préserve malgré tout dans un contexte qui parfois est en ruralité, une mémoire d'écrivain. Et ça n'est pas forcément aisé que de défendre ce patrimoine littéraire quand on est parfois un peu seul, parce que souvent ce patrimoine repose aussi sur des forces qui ne sont pas multiples, et tu en sais quelque chose. Et donc il s'agissait là d'orienter vers justement ces lieux un peu plus lointains, vers Marguerite Audoux. Et Marguerite Audoux a été choisie également par l'auteur, par Thomas Giraud, comme un auteur, j'allais dire, singulier, puisque Marguerite Audoux, c'est tout de même cette femme qui, de bergère, va devenir écrivaine et va aller jusqu'à Marie-Claire et donc avoir ce prix féminin qui va lui conférer quand même cette renommée. Et dans ce partage, il s'agit effectivement de créer un récit fictionnel à partir du récit que tu as pu en donner d'ailleurs dans ce lieu, c'est-à-dire à partir de cette rencontre qui se fait entre un auteur actuel et un auteur du passé, et notamment femme, parce que nous savons que le genre de nos écrivains est quand même majoritairement masculin et que la féminité a quelques mal à se montrer pour des raisons évidentes de reconnaissance des temps passés, et il s'agit aujourd'hui justement d'aller vers cette parité. Et Marguerite Audoux, ce choix a été partagé très vite par Thomas Giraud, par moi-même, par les administrateurs, comme étant un choix défini. Donc il y avait également Alain Fournier qui était dans le choix, il y avait aussi Balzac, alors, qui a peut-être une réputation, même certainement, par sa comédie humaine un peu plus assise. Et ce choix se fait toujours dans cette volonté de non-contrainte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'auteur soit déterminé dans son choix et qu'il ne soit pas contraint d'aller vers un lieu ou vers un auteur qui ne lui apporterait pas autant ou pour lequel il aurait quelques inquiétudes, je mets des guillemets, à l'égard de cette découverte. Donc voilà ce que je peux dire sur ces résidences qui ont commencé quelques années maintenant. Nous avons avec Cyclic une longue tradition de résidences communes. On a commencé avec Pierre Sange, donc les derniers jours d'eux, In Extremis. On a eu également Benoît Vincent, donc autour des petites patries nature-littérature, donc voilà quelques années. Et puis Thomas Giraud, qui a été l'auteur reçu au musée Marguerite Audoux à Sainte-Montaigne.
Oui, et c'était d'ailleurs une très très belle expérience, notamment par rapport au contexte. On sortait du Covid et fallait relancer finalement la machine c'est culturelle. Ça. Et quand on a eu vraiment cette proposition, on n'a pas hésité une seule seconde et c'était vraiment une très très belle rencontre et artistique et humaine, puisqu'on lui a fait aussi découvrir notamment les bibliothécaires du territoire. On avait organisé une interview avec la presse locale afin qu'il puisse développer sa notoriété et expliquer la démarche. Donc un très très beau souvenir en mai 2021.
Et l'intérêt, celui-ci aussi, c'est-à-dire qu'au-delà du partage entre un auteur actuel et un lieu, c'est aussi essaimer autour de ce lieu et montrer qu'il y a aussi des auteurs actuels qui sont dans l'écriture et qui sont capables de porter témoignage du fait d'écrire et parfois du fait de faire écrire. C'est-à-dire que cette prise de parole, elle est importante dans le fait de pouvoir permettre aussi de mutualiser ce champ avec les bibliothécaires, avec le réseau des bibliothèques notamment, autour de nos maisons d'auteurs.
Alors j'ai envie de dire, une résidence littéraire dans un lieu littéraire, c'est entre guillemets logique, mais en novembre 2022, nous avons eu une seconde résidence, un peu plus originale, puisqu'il s'agissait non pas d'une résidence littéraire, mais d'une résidence musicale. En effet, nous avons reçu au musée Marguerite Audoux Roland Kern. Alors pourquoi ? Pourquoi un tel choix ? Pourquoi faire une résidence musicale dans plusieurs lieux littéraires du territoire ?
Nous parlions de rencontres et nous avons la chance d'avoir des lieux qui permettent de faire du détail et non pas d'être grossistes. Et détaillant, c'est parfois justement favoriser la rencontre singulière. Cette rencontre s'est faite à la Devinière. C'était tout juste avant le Covid, avant cette parenthèse qui nous a un peu soustrait. Ce musicien est venu dans le lieu et m'a dit « J'aimerais composer dans les caves, est-ce que vous permettez le fait de pouvoir y aller ?» Bien entendu, nos lieux sont généralement grand ouverts à chacun qui veut s'exprimer bonnement, et c'était le cas. Et de là, nous avons réfléchi à une forme de résidence comprenant 8 maison d'auteurs, donc 8 auteurs différents. Alors, je vais les nommer, mais il y avait bien sûr Rabelais, pour lequel je ne peux pas passer sous silence son nom, bien entendu. Il y avait Balzac, il y avait Georges Sand, il y avait bien sûr Alain Fournier, donc Marcel Proust à la maison de Tante Léonie, Ronsard à nouveau avec La Poissonnière et Saint-Côme, et puis il y avait bien entendu Marguerite Audoux. Et là, nous avons affaire à un gambiste, c'est-à-dire un musicien qui s'accorde avec un instrument qui aujourd'hui n'est pas forcément très populaire, donc la viole de gambe, et qui a cette volonté de composer à partir de cette viole de gambe, c'est-à-dire qu'il a cette ferveur pour l'instrument, et il a proposé de faire des signatures musicales pour ces 8 maisons. Et ses 8 auteurs. Il s'est déplacé dans chacune d'entre elles. Il en a pris, l'air, à tous les sens du terme. Et puis, il a restitué tout cela donc, sous forme d'un CD qui a été d'ailleurs édité donc en 2022, soutenu par la SACEM, je dois le souligner. C'est-à-dire que là, nous avions le soutien de la région Centre-Val-de-Loire et la SACEM pour permettre cette expression des signatures musicales des lieux. Je pense que l'interprétation de nos lieux peut passer par la littérature, mais elle peut passer également par tout un champ d'expression. C'est-à-dire que la musique fait bien sûr partie d'un champ d'expression particulier. La chorégraphie peut également être un signe d'expression autour d'une littérature. Et on pourrait multiplier ainsi tous les actes qui, je dirais, constituent l'interprétation contemporaine que nos maisons doivent avoir, c'est-à-dire qu'elles doivent bien entendu célébrer leurs anniversaires, quand c'est le cas pour Marguerite Audoux, les 10 ans, bravo, et il faut commémorer, mais il faut se souvenir que chaque jour, nous devons également avoir une raison sociale, une raison culturelle. Et tu parlais tout à l'heure du patrimoine bâti, du patrimoine architectural, qui prend une grande place dans notre région centre-Val de Loire. Mais il y a également le patrimoine immatériel, qui est très important, parce que les pierres peuvent avoir de l'esprit, mais les mots en ont aussi beaucoup. Et je pense que ces mots, il faut les choyer, parce que nous sommes dans une période où l'expression, la nuance, doit s'accorder avec la connaissance des mots. Voilà. Et je pense que notre société a besoin également de se réapproprier certains mots, de les remettre à l'honneur, et de les faire briller un peu plus qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Oui, alors, que dire après de si belles paroles ? En tout cas, je voulais vraiment dire que l'expérience avec Roland Kern était là aussi une très très belle aventure. Et au-delà du musée, c'est vrai que nous avions aussi demandé les autorisations nécessaires pour nous rendre avec Roland Kern dans la ferme où Marguerite Oudou a été réellement bergère. Et c'est un lieu qui est généralement fermé, pas du tout ouvert au public. Et se rendre dans un tel lieu si riche de sens, puisque c'est là où Marguerite Oudou a véritablement vécu, et le voir, enfin plutôt l'entendre créer un air dans ce lieu précisément, c'était vraiment chargé d'émotions et une très très belle expérience à vivre. Donc une expérience vécue grâce à vous, donc un grand merci là aussi.
In situ, et je dirais qu'il a fait des restitutions dans différents lieux justement, portant la signature des lieux dans les lieux dans lesquels il avait créé. Et puis ce passage a initié également, alors, j'allais dire des programmations un peu plus singulières. Je parlais notamment des siestes balsaciennes donc à Saché, où Roland Kern donc revient, j'allais dire depuis maintenant 3 ans, accompagner les lectures qui sont faites à Saché autour de voilà, littérature et musique, en prenant le temps de l'écoute, à la fois des mots et des notes, et faire résonner tout ça de bonne manière.
Parfait, merci beaucoup. Alors, quand on est aussi petit que le musée Marguerite Oudou, parfois on est très très surpris d'être choisi pour telle ou telle raison. On ne se sent pas forcément légitime pour accueillir tel ou tel événement. Et grâce à vous, nous avons pu recevoir 2 réunions, entre guillemets, lors de l'année 2021. Donc on a été surpris par rapport à notre taille, mais nous avons bien entendu accepté de vous recevoir. Premièrement, à l'occasion de l'Assemblée Générale Écrivains au Centre, en 2021. Pour possibilité étaient nombreuses, par quoi avoir choisi le musée Marguerite Oudou pour cette Assemblée Générale ?
Bah pour la même raison que je viens presque de dire devant toi, c'est-à-dire pour à la fois montrer qu'il y a des auteurs qui ont une notoriété plus forte que les autres, mais que ces auteurs ne doivent jamais oublier non plus les auteurs qui, par la postérité parfois, peuvent être moins lus aujourd'hui ou moins perçus aujourd'hui, mais encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, pas du tout. Il s'agit de distinguer la fédération d'ailleurs ou le réseau hein, contient en son sein, j'allais dire, des maisons qui sont multiples dans leur statut, dans leur fonctionnement, dans leur gestion, dans leur notoriété, dans leur chalandise, comme on dit dans le tourisme. Et le choix pour Marguerite Oudou de l'Assemblée Générale, donc du réseau Écrivains au Centre, c'était justement de soutenir l'action qui est menée, une action à la fois par son responsable qui est devant moi, par la municipalité également qui fait un travail remarquable puisqu'elle soutient amplement le lieu hein, par le financement, par la scénographie qu'elle a mise en place dans ce lieu, et également pour justement aller dans tous les territoires dans lesquels il y a ces lieux. C'est-à-dire que le réseau n'est pas simplement un réseau tourangeau. Voilà, il y a bien sûr Ronsard, Balzac, Rabelais, un réseau qui va au-delà et qui doit également aller là où se trouvent des actions positives qui sont louables, encore une fois, parce que dans une commune de combien d'habitants ?
180 au dernier recensement.
Voilà, donc 180 au dernier recensement, donc nous avons la précision des chiffres, mais ça ne m'étonne pas avec Benjamin. Et donc ce recensement dénote quand même un lieu qui se trouve en milieu rural, on pourrait dire dans cette France un peu périphérique, voilà, mais pour laquelle on ne doit jamais se détourner. C'est-à-dire que ce sont autant de témoignages, moi je les appelle les petites ambassades, ces lieux, c'est-à-dire qu'elles sont là pour démontrer que nos auteurs, eh bien, ils constituent un maillage sur ce territoire, un maillage qui doit nous inviter à justement à les fréquenter. Parce que parfois, la première rencontre se faisait avec l'éducation nationale, c'est-à-dire que les programmes permettaient ces visites. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est un peu plus rare, pour diverses raisons d'ailleurs, hein, avec des programmes qui changent, qui évoluent. Mais nous devons quand même conserver ce lien avec le public par des actions pédagogiques, éducatives, des actions littéraires, les mener à tous les degrés de manière à favoriser la première rencontre qui permettra ensuite d'aller plus loin, d'être curieux et d'aller de maison en maison pour essayer de trouver et de se constituer ce bagage, comme disait Jules Vallès, nécessaire à pouvoir cheminer. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la période Covid. La période Covid, ça a été également très révélateur entre ceux qui pouvaient avoir un imaginaire et qui pouvaient avoir peut-être une vision plus haute de la situation et ceux qui étaient parfois un peu limités par rapport à un présent très cruel. Et je crois que les mots, encore une fois, ont cette vertu. Alors c'est peut-être la fréquentation de Rabelais qui me rend à une littérature un peu soignante et thaumaturge, mais je pense que ces mots permettent quand même la guérison.
Merci. Alors en 2021, nous avons eu l'honneur d'être choisis lors d'une seconde occasion, c'est-à-dire la conclusion des 16e rencontres littéraires. Nous avons été choisis par la Fédération nationale des maisons d'écrivains pour recevoir tous les représentants de toutes les maisons d'écrivains à l'échelle de la France. Donc j'étais un peu stressé de recevoir mes homologues parce que j'étais l'un des plus petits, certainement, en termes de fréquentation et en termes peut-être de taille de lieu ou même au niveau du budget. Et je devais parler devant toutes ces personnes avec qui étaient les animateurs et animatrices d'auteurs connus cette fois-ci au niveau national voire international. Donc c'était un beau souvenir, très stressant au départ. Et là aussi, pourquoi avoir choisi le si petit musée Marguerite Audoux pour conclure ces 16e rencontres ?
Eh bien Benjamin, la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires a son siège à Bourges déjà, il faut le dire, depuis bientôt 30 ans. Et chaque fois qu'elle organise des rencontres, elle organise des rencontres tous les deux ans, depuis 1996, et à chaque fois elle essaye de choisir pour la conclusion de ces rencontres un lieu qui est en rapport avec son thème, ou qui est en tout cas, il y a tellement de lieux, comme le disait Alain, hein, des structures sont tellement différentes, il y a des grandes, des petites maisons, des privées, des départementales, des municipales, etc. On essaye toujours de montrer un exemple à tous nos amis qui viennent de la France entière. Et lors de ces rencontres, moi j'avais proposé au conseil d'administration de la fédération de venir voir ce musée Marguerite Audoux, qui pour moi est un projet exemplaire de ce qu'on peut faire justement dans une petite commune, 180 habitants. Mais oui, on peut le faire, voilà. Et en plus, on peut bien le faire, c'est-à-dire que ce qui est fait, on entend les textes, c'est-à-dire on présente la vie et l'œuvre, on entend les textes, on peut lire les textes, on peut comprendre d'où elle venait ou comment elle est devenue écrivaine. Il y a peu d'objets finalement présentés puisqu'il reste peu d'objets, il y a son lit, il y a quelques objets personnels, mais en fait, on se promène dans la vie de l'auteur, dans une grande pièce, ensuite on voit quelques objets, ensuite on peut acheter des livres, c'est important aussi, et tout ça, c'est dans une petite commune, comme quoi c'est possible, c'est faisable, et c'est ça que je pense la Fédération a voulu montrer en choisissant le musée Marguerite Audoux pour la conclusion de ses rencontres de 2021. Voilà Benjamin.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ainsi se termine la première partie de l'interview. En transition, nous passons à l'instant poème. Notre poète local, Gérard Fléchel, a écrit un poème qui met en avant le plaisir d'écrire. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous l'écoutons maintenant.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 5, l'instant poème avec Gérard Fléchel.
Sans mots dire. Il ne parle pas, mais il écrit très bien, dans sa langue qui ne te dit rien. Tu n'es pas de ce monde-là. Qu'il soit d'amour ou de colère, ses mots ont toujours la manière. Ses mains sont comme des plumes, sans aucune amertume. Que tu veuilles lui parler, il saura t'écouter. Sur tes lèvres, il lira les mots que tu diras. Écoute vos différences dans son monde silence. Vous pourriez vous aimer si ton cœur est touché. Dans son monde muet, vous iriez musarder. Laissez donc ses mains sur ton corps s'amuser autant de mots câlins qu'il saura t'épeler.
Merci beaucoup à Gérard Fléchel. Alors nous passons maintenant à la deuxième partie de notre interview.
Au doux plaisir de se retrouver, épisode 5, la deuxième partie de l'interview.
Nous avons parlé beaucoup de nous. Eh bien maintenant, nous allons parler dans notre seconde partie uniquement de vous. Alors, nous commençons par la Fédération nationale des maisons d'écrivains. Thomas, pouvez-vous nous raconter en quelques mots son histoire, son actualité et pourquoi pas ses projets futurs ?
Avec plaisir Benjamin, merci. La fédération, donc, comme il avait été précisé un petit peu plus tôt, a été créée en 1998 à l'issue de rencontres de maisons d'écrivains qui avaient commencé dès l'année 1996 et qui avaient prouvé qu'il y avait à l'échelle du territoire des problématiques partagées par de nombreuses maisons d'écrivains, mais pour lesquelles les réponses n'étaient pas toujours facilement accessibles. Cette mise en relation a donc trouvé son plein essor dès la fin des années 1990. Petit à petit, elle s'est réellement professionnalisée, puisque un salarié permanent a pu être embauché, grâce au soutien du ministère de la Culture, et de plus en plus d'actions, à la fois de médiation, d'actions collectives, et d'actions avec les maisons d'écrivains, ont pu être organisé. Ensuite, une grande étape, je crois, dans la vie de la Fédération est la constitution de réseaux régionaux. La Fédération, à l'origine, ne possédait pas le terme national dans son patronyme. Les réseaux régionaux sont arrivés en 2010 et c'est ce qui permet aussi d'avoir une certaine cohésion de territoire, d'organiser des événements qui peut-être vont permettre plus de facilité d'accès pour les responsables de maisons d'écrivains qui auraient des difficultés à voyager à l'autre bout du pays.
D'accord. Et quelle est votre actualité ?
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, se déroulent des événements. Le calendrier complet des manifestations est à retrouver sur le site internet de la Fédération, www.literature-lieu.com.
Très bien. Eh bien, nous vous invitons à consulter ce site dès maintenant. Nous passons ensuite à Écrivains au Centre. Donc, même question, quelle est l'histoire de cette entité régionale, son actualité ou ses projets futurs ?
Alors, l'histoire, comme le disait tout à l'heure donc, Thomas, donc, les statuts de la Fédération ont évolué en 2010 pour permettre la création de réseaux régionaux. Pour Écrivains au Centre, la constitution s'est faite un peu plus tardivement, donc en 2015, et 2016 véritablement pour le début du réseau, donc ça fera bientôt une dizaine d'années. Alors chaque région a effectivement aussi sa propre diversité, c'est-à-dire que toutes les régions n'ont pas la même origine de création du réseau, et il y a par exemple, je pense au réseau Hauts-de-France, qui a une singularité, puisque dès le départ il s'agissait d'un soutien contre l'illettrisme et d'une volonté que les maisons d'écrivains soient véritablement des maisons ouvertes en faveur de la littérature éducative, entre guillemets, c'est-à-dire à lutter contre l'illettrisme dans cette région, avec un fort soutien de fondations, je pense notamment à la fondation de La Poste, et puis également un soutien du centre régional du livre local avec salariés. Donc une constitution assez spécifique, et avec un festival, donc le festival Résonance, qui aujourd'hui est un festival reconnu au niveau national. La Nouvelle-Aquitaine a également un réseau très important et très fort, où là nous sommes plus sur un mode d'union entre la recherche, j'allais dire les maisons d'écrivains, donc nous sommes plus sur un mode relation entre l'université, notamment, et les maisons d'écrivains. Et puis, pour la région centre, la spécificité, entre guillemets, s'est tournée plus vers les résidences, les résidences partagées, les séjours d'auteur, j'allais dire par un choix à la fois dédié autour du conseil d'administration et puis également par rapport à des possibilités d'action. C'est-à-dire que nerfs de guerre sont pécunes, comme nous pouvons dire, et tous les réseaux n'ont pas forcément le même budget, la même ampleur budgétaire, le même support également salarié, parce que les réseaux ont parfois des salariés. Et ensuite, il faut voir que ce sont souvent des bénévoles. C'est-à-dire que nous faisons cette action en plus, que ce soit d'ailleurs au titre de la fédération, ou Sophie en sait quelque chose, elle a pu voir en une vingtaine d'années l'engagement des uns et des autres autour de cette fédération et en faveur, j'allais dire, d'un thème commun qui est la littérature, en faveur d'un patrimoine commun qui est le patrimoine de nos écrivains. Et c'est vrai que c'est un engagement de chaque jour qui nous occupe dans nos lieux principalement et qui ensuite découle ou se décline dans des réseaux et dans cette volonté de se réunir autour de thèmes communs. C'est vrai que la fédération, elle a mené aussi des actions de formation, développé également les actions pédagogiques, renforcé les liens avec la recherche, ça je le disais aussi, et également faire que les maisons soient reconnues aussi comme des lieux de création. Et c'est ce que le réseau Écrivain au Centre tente de faire à travers les résidences et les séjours qu'il organise.
D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors maintenant, parlons un petit peu de vos goûts personnels. Donc bien entendu, je parle toujours de littérature. Donc par exemple, Sophie, mon petit doigt m'a dit que vous étiez très investie dans l'espace George Sand. Pouvez-vous nous parler de cette écrivaine, s'il vous plaît ?
Mais oui, Benjamin, en effet, je m'investis depuis que je suis en retraite, puisque j'ai un petit peu plus de temps. Enfin, ça, c'est pas toujours évident, mais j'ai un peu plus de temps. Je m'investis dans un projet qui est de mettre en valeur la maison de George Sand à Gargilès. Gargilès, qui est un petit village de l'Indre tout à fait charmant, par ailleurs, même hors maison de George Sand, et qui n'est pas très loin du domaine de Nohant, le domaine le plus connu, le lieu connu pour George Sand. Cette petite maison de Gargilès qui lui avait été offerte par Alexandre Manceau, son dernier amour, pour se reposer, pour aller chasser le papillon, pour créer des herbiers, où elle a écrit également, était une petite maison dans son jus. Et depuis 2019, nous avons été un petit peu coincés par le Covid aussi, je dois le reconnaître, nous avons réussi à développer un très beau projet avec la communauté de communes, avec le département, la région, la DRAC, enfin vraiment nous avons tous les partenaires autour de nous qui nous suivent. Et aujourd'hui, les travaux vont commencer de façon à faire un centre d'interprétation à côté de cette petite maison qui sera gardée dans son jus pour qu'on garde le côté intime, parce que c'est très important ce côté intime qu'on retrouve dans les maisons d'écrivains, de façon à pouvoir développer un thème qui est George Sand et la nature, c'est-à-dire tout ce que l'écrivaine avait pu déjà voir de son temps, parce que c'est très intéressant de lire ce que George Sand pouvait déjà écrire à l'époque sur le changement climatique, sur l'évolution de la forêt, par exemple de la forêt de Fontainebleau, enfin, et voilà. Et ça, ce thème nous permettra, comme le disait Alain tout à l'heure, de mettre en relation des auteurs actuels qui s'inquiètent de tout ça et qui écrivent là-dessus, avec les écrits de George Sand. Il y a là un champ énorme à explorer et à transmettre également. Il y a plein de choses à transmettre aux jeunes générations sur le sujet. Et très clairement, alors nous espérons que les travaux seront terminés pour le printemps 2027. C'est dommage, hein, parce que 2026, c'est la commémoration des 150 ans du décès de George Sand, mais nous ne serons pas prêts, nous allons faire des actions hors les murs, je vous le promets. Mais ouverture, normalement, au printemps 2027, et voilà, j'espère qu'on pourra vous accueillir nombreux. On a accueilli la fédération, déjà, sur le projet, en tout cas. Je vous dévoile pas tout, il y aura plein de choses, mais voilà, je n'en parlerai pas plus.
Parfait, bien. Merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie. On suivra l'évolution du projet. Alain, est-ce que vous voulez dire quelques petits mots de François Rabelais et de son musée ?
Alors là, on est dans un déterminisme, Benjamin. Voilà. Parce qu'étant directeur d'un lieu, forcément, ce serait Rabelais qui serait mon enseigne favorite. Alors je crois que oui, en plus. Voilà, je ne vais pas beaucoup me forcer. Mais en un préambule, cependant, la discussion permet également de voir la diversité des lieux dans leur durée et dans leur naissance. C'est-à-dire qu'on a autour de cette table un lieu qui fête ses 10 ans, donc le musée Marguerite Audoux, Gargilès qui ouvrira en 2027,
un lieu en devenir,
et le musée Rabelais de Vignières qui a ouvert ses portes au public en 1951. Voilà. Donc c'est une vénérable dame que la de Vignières s'est constituée, j'allais dire, avec une succession d'actions individuelles, collectives, avec un département qui est propriétaire du lieu, donc le département d'Indre-et-Loire, qui a dans son escarcelle, comme je le disais, Ronsard à la Riche, et puis Balzac à Saché, et Rabelais à Seuilly. Petit lieu, intimité, comme le disait Sophie, c'est-à-dire que ce mot d'intimité permet, je pense, un rapport plus direct avec le visiteur, c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance. La maison, elle représente toujours quelque chose. C'est la maison d'enfance, c'est la maison d'inspiration, et c'est la maison qui nous rappelle aussi peut-être une enfance et une inspiration. Donc ça, c'est vraiment la chose intéressante. Et puis la Devinière, le musée Rabelais, c'est un accueil autour de 14 000, entre 13 et 14 000 visiteurs chaque année. Et c'est une action hors les murs, puisque c'est une vigne, une truffière qui a été plantée. C'est un marais de Taligny qui se trouve à côté, qui fait partie à la fois du roman, mais qui a une vertu naturaliste. Il vient d'être restauré, il sera ouvert au public en octobre de cette année. Donc il sera en complément du musée Rabelais. Nous aurons cette proposition littérature-nature. Et puis c'est un classement paysage remarquable qui est en cours depuis 2018, mais il faut passer toutes les étapes, et qui se base donc sur l'aspect artistique, notamment littéraire pour ce qui est du paysage de Rabelais, puisqu'il sera classé au titre du théâtre des guerres picrocollines. Donc c'est là que nous voyons que l'importance d'un lieu, d'une maison, c'est également de rayonner au-delà de lui-même ou d'elle-même, et c'est d'investir, l'entièreté autour de lui, et parfois même le paysage, puisque ce paysage est en interaction complète avec la maison, et permet la bonne lecture, parfois, pour le visiteur, de ce champ d'exploration, comme le disait tout à l'heure Sophie, qui est une maison d'écrivain. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, effectivement, Rabelais, c'est un auteur incommensurable, un fondateur de langue. Il nous met des mots dans la bouche comme aucun autre auteur n'a su le faire, je pense. Il le fait très tôt. C'est un auteur imaginatif parce qu'il n'est pas contraint par l'académisme. C'est un auteur franc-tireur parce qu'il se dédouane de toute forme de convention. Et c'est un auteur qui doit nous inviter, là aussi, à être un peu comme lui aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un esprit fort dans un temps un peu faible.
Eh bien, merci beaucoup. Alors maintenant, parlons un petit peu du futur. Et il paraît que 2028 sera une année très importante pour vous. Sophie, pouvez-vous nous dire pourquoi, par exemple ?
Mais oui, Benjamin, 2028 est une année très importante pour la Fédération, puisqu'elle va fêter ses 30 ans. Et elle va fêter ses 30 ans dans un cadre particulier, puisque vous le savez certainement, Bourges a été choisie comme pour être capitale européenne de la culture cette année-là. La fédération y est en son siège depuis l'origine, évidemment, ça nous concerne directement. Et dans ses projets, la fédération a depuis un petit moment l'idée de créer un réseau européen. Et donc, elle essaye de profiter, en effet, des appels à projets de Bourges 2028 pour lancer ce réseau européen. Je suis moi-même au conseil d'administration de Bourges 2028, donc je ne peux pas intervenir sur le sujet. Ce n'est pas moi, évidemment, qui vais choisir. Mais il y a certainement une belle opportunité de mettre en lumière la fédération qui fête justement ses 30 ans cette année-là. Enfin, on a là une conjonction, des planètes qui s'alignent pour nous. Et ce sera, je pense, une grande année. Alors, on n'a pas vraiment. On commence à réfléchir à certaines choses. Évidemment, il y aura les rencontres de Bourges, puisque c'est tous les deux ans, elles auront lieu en novembre 2028. qu'allons-nous faire en marge de ces rencontres qui sont un colloque professionnel avec un thème comme à chaque fois, puisque l'ADN de la fédération, c'est quand même de répondre aux besoins de ses adhérents. Mais il y aura, alors, est-ce qu'on fera une exposition? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, voilà, on va avoir un brainstorming sur la question, mais c'est vrai que 2028 sera une grande année pour Bourges et pour la fédération.
Très bien. Eh bien, là encore, ça donne envie. On est impatient d'y être. Alors, ainsi se termine la seconde partie de l'interview. Et avant de passer au mot de la fin, voici une petite rubrique surprise. Et oui, vous n'étiez pas au courant. L'une ou l'un d'entre vous va avoir un petit privilège dans quelques instants. Je vais poser une question chiffrée. Et celle ou celui qui sera le plus proche de la bonne réponse aura ce privilège. Est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Sinon, on ne diffuse pas l'émission. Alors, Marguerite Audoux a fait le trajet entre Bourges, ville que vous connaissez très bien, et Sainte-Montaine, pour devenir bergère. Par le chemin le plus court, combien y a-t-il de kilomètres entre Bourges et Sainte-Montaine? Alors, vous répondez dans l'ordre de votre choix. Je note, et ensuite, celle ou celui qui sera le plus proche de la bonne réponse gagnera un petit privilège.
Je laisse les berruyers prendre la parole.
30 km.
Alors, Sophie nous dit 30. Touron.
Je vais dire 46.
Alors, Thomas nous dit 46.
Nous étions venus pour des lettres et non pour des chiffres.
Et oui, je suis imprévisible.
Exactement, mais nous aimons le fait d'être imprévisible. 54 ?
54. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le nombre de kilomètres par le chemin le plus court, attention, pas à vol d'oiseau, qui sépare donc Bourges et Sainte-Montaine, fait 51,8 kilomètres. Donc, le plus proche est Alain, avec 54. Donc, pour la petite histoire, donc, c'est le trajet qui passe par Neuvy-sur-Barangeon. Et on ne le sait peut-être pas, mais avant de devenir bergère à Sainte-Montaine, Marguerite Audoux avait fait un essai professionnel chez un couple de tailleurs à Neuvy-sur-Barangeon. Donc, elle avait emprunté donc, le chemin de Bourges pour aller à Sainte-Montaine sans le savoir, en passant par Neuvy-sur-Barangeon. Donc elle a certainement réalisé ses 51,8 km. Donc bravo Alain.
Que gagne-t-on ?
Eh bien, un petit privilège. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, parfois la musique et la littérature sont très liées. On peut citer par exemple des comédies musicales comme Roméo et Juliette ou encore Notre-Dame de Paris. Eh bien, dans notre émission, nous aimons conclure avec une petite musique. Et donc aujourd'hui, Alain, vous allez choisir la musique de votre choix parmi trois propositions. Nous diffuserons, dans quelques secondes, c'est la magie du montage, la chanson que vous aurez choisie. Attention, il n'y a pas de joker. Alors, trois chansons qui mettent en avant la littérature française, chacune à leur manière. Vous avez le choix entre La femme et l'avenir de l'homme, une chanson, de Jean Ferrat, qui met en lumière effectivement Louis Aragon. Deuxième possibilité, la chanson Sur le pont Mirabeau, une chanson de Marc Lavoine, pour mettre en lumière l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Et troisième choix, car il en faut pour tous les goûts, Du côté de chez Swann, une chanson de Dave, qui met en avant l'œuvre de Marcel Proust. Attention, musique de suspense, je compte sur la régie. Roulement de tambour, le choix d'Alain est...
Je vais aller vers Apollinaire, je pense. Voilà.
Apollinaire, donc on écoute tout de suite sur le pont Mirabeau, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Eh bien, c'est parti, musique.
Coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont, de nos bras passent les éternels regards, longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance violente. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours sont longs, je demeure. Passent les jours et passent les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Vienne la nuit.
Ah, c'est toujours un plaisir de réécouter Marc Lavoine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, beaucoup, très belle chanson. Alors, le tout est de savoir, est-ce que nos deux autres invités auraient fait le même choix ? Mystère.
Bien sûr, la femme et l'avenir de l'homme.
Ah, voilà, bien sûr.
Bon, eh bien. Alors, ainsi se termine l'émission. Mais avant, bien entendu, comme nous le faisons à chaque fois, nous laissons le mot... de la fin à nos invités. Donc nous aurons trois mots de la fin pour cet épisode numéro 5. Qui veut commencer ? Sophie, apparemment.
Bien, je commence. Hein,
désigner du doigt, parce qu'il n'y a pas d'image, je le précise, pour nos auditeurs et auditrices.
Juste un mot pour remercier Benjamin et Studio 45 de nous avoir laissé la parole, parce que la Fédération des maisons d'écrivains, c'est certainement pas la fédération la plus connue, ou ce sont certainement pas les musées les plus connus, mais qui pourtant méritent de l'être. Donc merci de nous avoir permis de nous présenter et de nous faire connaître Benjamin, et longue vie au musée Marguerite Audoux.
Merci beaucoup.
Je me sens obligé d'aller dans le sens de Sophie et de vous remercier vraiment très sincèrement de cette invitation.
Merci beaucoup. Alain.
Benjamin, tout d'abord, te remercier de nous avoir conviés, remercier effectivement le Sudo 45, donc les Romuald qui est à nos côtés, il faut le nommer tout de même un peu, et qui nous a bien accueillis. Et puis, effectivement, je me joins à mes deux camarades qui sont là, à savoir que voilà, nous sommes heureux pour la maison Marguerite Audoux, qu'elle puisse continuer son action, qu'elle puisse agir avec ton concours, avec également la municipalité, et puis que la fédération soit également une entité forte, permettant justement ces rencontres, les journées d'études, qui sont également une marque en région de la fédération, et les rencontres de Bourges, donc tous les deux ans. Et puis une petite phrase comme ça sur les maisons d'écrivains. Hélène Gaudy, donc reçue voilà quelques années maintenant à la Devinière, et qui avait écrit sur la maison d'écrivains. Donc une maison d'écrivains, c'est d'abord une absence. Il a laissé la maison vide, à nous de l'investir. Alors on garde, on cherche, on tente de saisir quelque chose qu'il aurait laissé pour nous et que nous pourrions encore lire. Le texte continue, il est très beau, mais à nous d'investir les lieux et à nous de continuer à lire et à faire lire.
Eh bien, merci beaucoup. Donc à mon tour, je voulais vraiment vous remercier. Donc remercier vos deux structures. C'est vrai que pour les lieux tout petits comme le nôtre, vos structures nous permettent de réaliser des beaux projets qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre tout seul, notamment d'un point de vue financier, mais pas que, par rapport aussi aux réseaux qui existent parfois dans le monde culturel. Donc un grand merci pour les projets qui se sont déjà déroulés au musée Marguerite Houdou. C'est très important pour nous et ça nous a permis, je pense, aussi de grandir. Vous êtes des partenaires précieux et je l'espère, nous aurons d'autres projets dans le futur. Et plus précisément, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir répondu favorablement à mon invitation aujourd'hui. Nos émissions sont à l'image des 10 ans écoulés et donc votre présence était légitime et hautement symbolique pour nous. Donc un grand merci, longue vie à la littérature, que ce soit à l'échelle régionale ou nationale. Et puis pour ma part, je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices très prochainement pour l'épisode numéro 6. Où ça ? Eh bien, sur Studio 45, bien sûr. À très bientôt.
C'était au doux plaisir de se retrouver. Une émission proposée par le musée Marguerite Audoux et présentée par Benjamin Chausseron. À très vite pour un nouvel épisode sur Studio 45. Retrouvez dès à présent cet épisode en version podcast au www.studio45-radio.fr.